On lit du livre des Actes, chapitre 16, commençant au verset 9. Les Actes, chapitre 16, et au verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour de sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et les fit sortir, et dit, « Seigneur, Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il les prit avec lui, et cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit au licteur, « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen, et Dieu ajoutera à cette lecture de sa parole sa propre bénédiction. À la vie de Troas, Paul a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu un Macédonien qui lui priait de passer en Macédoine pour aider les gens. C'était en effet l'appel de Dieu pour prêcher l'Évangile en Europe. Paul ne pouvait savoir à ce moment-là toutes les conséquences du voyage missionnaire qu'il était sur le point de commencer, mais il a obéi à l'appel. On vient de lire le récit des événements à Philippe, la première ville où Paul s'est arrêté en Macédoine pour proclamer l'Évangile. Ce récit commence avec Paul en prière et se termine avec Paul en prison. Et entre ces deux événements, on voit la souveraineté de Dieu en tout ce qui se passe à Philippe. Mais on peut y observer aussi des aspects de la vie et de l'œuvre de Paul qui servent d'exemple pour nous autres chrétiens. D'abord, on voit que Paul y est allé comme un serviteur. On voit Paul, le serviteur. On lit dans ce passage que dans la vision, le Macédonien priait « Passe en Macédoine et secours-nous. » Paul y est allé pour secourir. En faisant cela, il a fait beaucoup plus que le chrétien typique qui professe le nom de chrétien, mais qui ne fait souvent rien pour la cause de Christ. Paul a entendu l'appel et il est allé pour aider. Il n'y est allé ni pour gagner de l'argent, ni pour devenir un grand homme de politique ou de société. Non, il y est allé en tant que serviteur, pour aider. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens comme ce Macédonien qui sont perdus dans les ténèbres et qui ont besoin d'aide pour en sortir. Il nous appelle. Mais le chrétien typique vit comme s'il n'entend rien. Il est comme les deux religieux dans l'histoire du bon samaritain. En voyant le victime, ils font semblant de ne rien voir et ils passent outre. Mais Paul est parti pour aider les perdus. Et cet esprit de serviteur est essentiel à l'œuvre et au témoignage de l'Église de Jésus-Christ. il y a des chrétiens de nos jours qui passent leur journée en faisant leurs projets pour l'avenir, pour le mariage, pour les affaires, pour la formation formelle, pour faire la fortune. Et le soir, ils s'endorment sans même prier pour les perdus. Les choses de ce monde les assourdissent aux cris du monde perdu. Passe ici et secours-nous. Mon ami, connaissez-vous le pouvoir de salut de Jésus-Christ? Votre âme est-elle libérée par le Seigneur? Si oui, chrétien, alors il faut que vous fassiez attention aux cris des millions du monde qui sont perdus. Passe ici et secours-nous, disent-ils. Nous, on a besoin de cultiver l'attitude d'un serviteur, comme Paul. Il y a beaucoup de mouvements évangéliques de nos jours avec lesquels je ne suis pas d'accord en ce qui concerne leur méthode et leur théologie. Mais on doit admirer leur zèle pour aller là où la majorité des chrétiens refusent de servir. Il est trop facile de rester à Troas et de critiquer les moyens que les autres emploient pour aller en Macédoine. Écoutez, je ne suis pas en train de justifier ceux qui désobéissent au Seigneur en compromettant la pureté de l'Évangile. Mais je dis que souvent les chrétiens s'en prêtent à critiquer, mais lents à agir. Oh, pour l'esprit de l'apôtre Paul, qui est allé comme un serviteur pour secourir. Certainement, il était motivé par un désir de plaire au Seigneur et de glorifier Dieu. Mais voyez-vous son cœur d'amour pour les perdus. Que Dieu nous donne le même cœur. Paul est allé pour secourir. Et il y est allé pour prier. Car le verset 13 dit, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. » Les hommes d'action doivent être aussi les hommes de prière. On ne doit négliger l'action pour la prière, ni la prière pour l'action. On doit faire tous les deux. Si on néglige la prière, ces actions ne seront que des présomptions humaines. Et si on néglige l'action, on devient fataliste. Non, il faut faire les deux. Et si l'on prie pour les missionnaires, il faut être préparé pour aller comme missionnaire. Soit au bout du monde, soit chez soi. Paul est allé pour secourir et pour prier. Mais surtout, il est allé pour prêcher l'Évangile. Le moyen de secourir le monde est de prêcher l'Évangile. Ça, c'est le moyen par excellence. Le plus grand secours dont le monde a besoin n'est ni politique, ni économique. Or, il ne faut pas me méprendre. Il y a une place pour l'aide humanitaire, et l'Église de Jésus-Christ a toujours aidé les pauvres. Tous les grands mouvements dans le progrès social a commencé dans l'Église de Jésus-Christ. Mais au fond, ce ne sont que des moyens et non pas les buts. Le grand but doit être toujours la prédication de l'Évangile. Luc dit qu'ils ont décidé de partir en Macédoine parce qu'ils ont conclu que le Seigneur les appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Quel message à annoncer ! Quel privilège d'entrer dans une région où les gens sont perdus dans les ténèbres et de leur apporter la lumière de l'Évangile. Ça, c'est la grande joie d'un évangéliste, de proclamer la bonne nouvelle à ceux qui n'en connaissent rien. Il était une fois un missionnaire qui travaillait dans un pays étranger et qui avait du mal à apprendre la langue du pays. Puis il avait pas mal d'ennuis à expliquer Dieu le Créateur, puis à expliquer la loi de Dieu, puis le jugement de Dieu. Mais le jour où il a expliqué que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique pour sauver le monde, ce missionnaire a vu les yeux ouvrir, les cœurs se briser et les gens venir à Christ par l'œuvre du Saint-Esprit. Quel jour merveilleux où la proclamation de la bonne nouvelle du salut a rompu enfin les chaînes du péché dans un monde ténébreux. Paul est allé pour secourir, pour prier et pour prêcher. Et vous, avez-vous commencé à sentir un peu l'urgence de l'appel macédonien? Dieu a-t-il agité votre cœur à regarder avec compassion les millions qui ont besoin de l'Évangile? Avez-vous, comme Paul, le cœur d'un serviteur? Paul est allé à Philippe comme serviteur. Puis il a combattu comme un soldat. L'homme qui était un serviteur a dû devenir un soldat pour Jésus-Christ. Aussitôt qu'il a commencé à prier, il a menacé le royaume des ténèbres, et Satan n'en était pas content. Et dès qu'il a commencé à prêcher, toutes les forces de l'enfer, qui tenaient le peuple en servitude, se sont levées contre Paul. Nous avons lu dans ce passage l'histoire de cette femme qui avait un esprit de python et qui criait derrière Paul, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Mais Paul ne voulait pas l'aide de Satan pour prêcher l'Évangile. Voyez-vous que Paul a compris quelque chose que certains évangélistes de nos jours feraient bien d'apprendre, à savoir que le diable est toujours contre l'Évangile, même s'il donne l'impression de s'y accorder. Il y a des chrétiens qui, voulant avancer quelque cause, se réunissent avec les non-croyants ou les religieux qui nient le vrai christianisme. Ils doivent suivre l'exemple de Paul, qui s'est retourné vers la femme et a ordonné l'esprit de sortir d'elle. Paul, comme un bon soldat dans la cause de l'Évangile, a lutté contre l'ennemi de Jésus-Christ et contre les forces de l'enfer. Que Dieu nous donne la grâce d'être de bons soldats de Jésus-Christ, quoi que soit le prix. Et Paul a dû payer cher pour s'être dressé contre Satan. On l'a battu de verges. On l'a mis en prison. Que je l'admire. Il était un citoyen de Rome, et ce fut donc une injustice qu'il a su faire, car selon la loi de Rome, on n'a pas le droit de fouetter un citoyen de Rome avant qu'il soit déclaré coupable par un tribunal. Mais Paul a accepté d'être fouetté, peut-être parce qu'il y avait ceux dans son groupe qui n'étaient pas citoyens. Paul ne voulait pas échapper à la verge tandis que ses compagnons l'auraient reçu. Quel courage dans ce soldat de Dieu! Quel courage face à l'ennemi de Dieu! Paul, comme son maître avant lui, a reçu tout ce que l'ennemi pouvait donner. Et il l'a fait avec joie, car nous lisons qu'il a prié et qu'il a chanté en prison. Ne voyez-vous pas ici le pouvoir et la réalité d'une vraie relation avec Jésus-Christ? Ce sont des gens qui sont vraiment sauvés et qui connaissent personnellement le Seigneur. Voilà la différence entre la religion et une relation vivante avec Christ. Mon ami, avez-vous ce témoignage? Dans cette même situation, auriez-vous chanté? Ou est-ce que votre expérience avec le Seigneur est si superficielle que lorsque le moindre épreuve arrive, vous vous mettez à vous plaindre et en fait de renier celui qui vous a sauvé? Oh, que nous puissions apprendre à être de bons soldats pour notre Seigneur. Paul est allé comme un serviteur. Il a combattu comme un soldat. Et en tout cela, Paul a travaillé comme un sauveteur d'âmes. Regardez un peu la liste des personnes sauvées par la prédication de l'Évangile à Philippe. Il y a Lydie, marchande de pourpre, et sa famille. Il y a la servante qui avait un esprit de python. Et puis, il y a le geôlier qui a crié « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» et sa famille. Voyez-vous la souveraineté de Dieu en tout cela? Lydie était de la ville de Thyatire, mais Dieu l'avait mise à Philippe au moment où Paul y prêchait l'Évangile. Et nous lisons que Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Paul était de Tarse, mais Dieu l'avait appelé à Philippe. Et pour le geôlier, Dieu a envoyé un tremblement de terre au bon moment. Oui, Dieu est souverain dans le salut, mais il a choisi d'employer la prédication de Paul. Souvent nous employons la souveraineté de Dieu pour nous excuser de ne rien faire. On se dit, si Dieu a ses élus, il va les sauver malgré moi. Écoutez bien, oui, Dieu a ses élus. Nous le savons parce que la Bible nous le dit. Sauvera-t-il son peuple? Oui, parce que la Bible dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais l'esprit charnel dit alors, si tout cela est vrai, je n'ai rien à faire. Cette attitude n'est que le péché. Le fait que Dieu a un peuple à sauver est encore plus raison de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dieu a employé la prédication de Paul pour sauver tous ces individus. Il a ouvert le cœur de Lydie et le cœur de la servante de Satan et celui de Joliet. Trois différentes sortes d'individus. Les uns doux et tendres comme Lydie, les autres durs et rebelles contre Dieu. Mais tous les trois perdus, Dieu les a sauvés tous. Nous avons tous ces types parmi nous aujourd'hui. Avez-vous le courage d'être un serviteur d'âme comme Paul pour leur prêcher l'Évangile de Jésus-Christ? Mon ami, j'ai exposé ce passage pour deux raisons. D'abord, je voulais vous montrer que, si vous n'êtes pas sauvé, que Dieu peut vous sauver, malgré votre situation dans la vie. Soit comme Lydie, soit comme la servante de Python, soit comme le geôlier. Quelle que soit la profondeur de votre péché, je suis ici pour vous dire que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. J'espère que vous l'accepterez. Mais j'ai aussi le désir que ceux qui sont sauvés reçoivent la vision des millions qui sont encore dans leur péché. Je veux que Dieu vous rende comme Paul le serviteur, comme Paul le soldat, comme Paul le sauveteur des âmes. Je veux que vous soyez totalement convaincus que vous devez servir Jésus-Christ, que vous devez secourir les hommes en proclamant l'Évangile, que vous devez combattre comme un soldat de Jésus-Christ contre le mensonge du diable, et que vous devez travailler pour sauver les âmes perdues. Que Dieu nous donne le cœur de répondre à son appel. Amen.